Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Ce semestre, écrire, communiquer et collaborer sur le web avec Stéphane Croza et Audrey Guélou.
Harvard professor Shoshana Zuboff is sometimes called the Karl Marx of our time. Her monumental book, The Age of Surveillance Capitalism, exposed the dubious mechanisms of our digital economy. According to Zuboff, our personal and private experiences have been hijacked by Silicon Valley and used as the raw material for extremely profitable digital products.
The term surveillance capitalism is not an arbitrary term. Why surveillance? Because it must be operations that are engineered as undetectable, indecipherable, cloaked in rhetoric that aims to misdirect, obfuscate, and just downright bamboozle all of us all the time.
Connecting them.
Don't be evil.
Connecting them.
Humanity.
Don't be evil.
Humanity. Humanity.
It's about empowerment of the individual.
The future is private.
C'était le début du documentaire The Big Data Robbery consacré à Shoshana Zuboff, autrice de The Age of Surveillance Capitalism, un des ouvrages les plus visibles internationalement sur le sujet donc du capitalisme de surveillance, dont notre invité d'aujourd'hui, Christophe Mazouti, nous fera probablement une petite lecture critique rapide. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Alors bienvenue à tous sur le cours émission de l'UTC WE01, écrire, communiquer, collaborer sur le web. Je suis Stéphane Croza, accompagné d'Audrey Guélou et de Léo à la réalisation, et comme je viens de le dire, de Christophe Mazouti qui est avec nous au téléphone. Alors Christophe, tu es philosophe, historien des sciences et des techniques au CHU de Strasbourg, chercheur associé au SAGE, auteur notamment de Affaires privées aux sources du capitalisme de surveillance chez CF Éditions. J'ai dû oublier plein de trucs, mais ça te va pour une première intro ?
Ça va, oui, très bien.
Alors pour le plan que tu nous as proposé aujourd'hui, tu vas donc commencer par nous introduire le concept de capitalisme de surveillance, nous parler ensuite des surveillance studies, nous faire une rapide histoire du courtage des données et enfin conclure sur la question du contrôle.
Vous pouvez retrouver des supports de cours et puis surtout des liens vers plus de matériel à propos du capitalisme de surveillance sur librecours.net. Vous pourrez retrouver ce cours émission sur l'instance Peertube à peri.tube sur la chaîne Upload. Pour poser vos questions aujourd'hui, vous pouvez le faire sur via l'outil de messagerie instantanée Mattermost à l'adresse team.picassoft.net, équipe WE01 canal live, et puis toujours sur Twitter et Mastodon avec le hashtag Upload.
Eh bien Christophe, si tu es prêt, tu as la main pour donc nous introduire le concept de capitalisme de surveillance. Qu'est-ce donc ?
Merci Stéphane. Ah, qu'est-ce que c'est que le capitalisme de surveillance ? Ben, je vais rebondir tout simplement sur le court extrait là, sur Shoshana Zuboff. Shoshana Zuboff, elle se concentre un petit peu sur l'économie des Silicon Valley, l'économie de plateforme. Elle montre, à très juste titre, comment cette économie et ces entreprises, en particulier Google, qu'elle focalise dessus, procèdent à une sorte de privation de nos expériences quotidiennes par une forme d'économie, c'est le capitalisme de surveillance, qui est un concept qu'elle a popularisé. Alors on verra peut-être plus tard un petit peu qu'en fait, ce n'est pas elle qui a inventé le concept, mais ça c'est un détail. Tu as dit tout à l'heure, j'étais historien des sciences et des techniques, et effectivement, mon approche, elle va être plutôt historique. Et quand on regarde l'histoire, quand on regarde un petit peu dans le détail, évidemment, on voit toujours que c'est jamais si simple, c'est toujours un petit peu plus complexe. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est mis, par exemple, à acheter des ordinateurs dans les années 60 ? Pourquoi est-ce que l'ordinateur sort du bricolage savant des laboratoires, des universités, ou de l'armée, si on veut ? Et pourquoi est-ce que des entreprises vont utiliser les ordinateurs ? Le travail de l'historien des techniques, ça va être de comprendre pas seulement les successions des innovations, on va appeler la révolution informatique, mais aussi les usages, la manière dont les innovations se sont trouvées appropriées, exploitées, et comment elles ont donné lieu à des nouveaux marchés. Donc, par exemple, on peut se demander où, quand et pourquoi le marché du courtage de données, du travail de la donnée, est apparu et comment il est devenu, en fait, le modèle principal de développement des entreprises. Eh bien, tout cela se joue exactement à la fin des années 60 et au début des années 70. C'est-à-dire qu'auparavant, l'ordinateur, ou ce qu'on a appelé les tabulatrices, hein, par exemple l'IBM 704, une grosse tabulatrice, bah, c'était des machines à calcul qui servaient à des tâches organiques de l'entreprise, donc la comptabilité, le travail de la donnée, récolter, prédire, par exemple, tout ça, ça va devenir des activités différentes qui sont en fait hautement rentables pour les entreprises qui vont alors se spécialiser dans le marketing. Alors, ce changement-là, c'est ce qui a été appelé notamment la seconde révolution informatique, et on a tendance un petit peu à l'oublier. Les ordinateurs vont devenir des systèmes d'information. On passe, si on veut, de l'analyse clientèle, donc par exemple les banques qui ont des listes de clientèle, à une gestion intégrée de toute la démarche marketing, c'est-à-dire l'ajustement de la production et l'analyse du marché. Et pour ça, on a besoin d'un ordinateur. Alors, qu'est-ce qui change à la toute fin des années 60 ou début des années 70 au niveau technique, au niveau scientifique et technique? On passe des listes professionnelles à des listes de clientèle, c'est-à-dire qu'on isole le plus petit dénominateur de ces listes, c'est-à-dire la donnée. La donnée devient en soi un bien numérique marchand. Elle devient aussi le concept clé du marketing qui va être de plus en plus théorisé dans les universités et il deviendra, le marketing, bien central dans l'organisation des entreprises. Et puis apparaissent les CMIS, le concept de CMIS, Computer Marketing Information Systems. Les organisations reposent dans des systèmes d'information intégrés et on va commencer à travailler les bases de données. En particulier tout ce qui est la recherche exploratoire de données, l'AED, l'analyse exploratoire de données. Donc le capitalisme de surveillance, donc, qui est un concept qui est nouveau, hein, qui date de 2014, eh bien, c'est une manière de voir ce capitalisme moderne à l'aune du travail de la donnée et comme modèle d'affaires dominant. Et ça, aujourd'hui, on a maintenant le concept de capitalisme de surveillance pour analyser tout ça, mais c'est une analyse qui doit nous amener jusque au moins les années 60. Voilà. Alors, on a aujourd'hui réussi à nommer cette forme de capitalisme, qui est une manière de voir le capitalisme, puisqu'il n'y a pas que ça, il y a le capitalisme de plateforme, le capitalisme marchand, etc. Ce sont toutes des manières de considérer le capitalisme. Et il a été théorisé pour la première fois, en fait, dans la Monthly Review en 2014, c'est-à-dire juste après les révélations Snowden. Alors, pourquoi est-ce que des auteurs comme John Bellamy Foster et Robert McShane, qui ont écrit dans la Monthly Review, ont théorisé ça? Eux, ce sont des auteurs qui travaillent depuis longtemps sur le capitalisme et les aspects monopolistes du capitalisme. Et donc, ils envisagent toute l'économie numérique comme étant finalement la cristallisation de trois choses, enfin, de ce qu'on va appeler le complexe militaro-industrialo-financier américain, qui mène jusqu'à une économie politique américaine depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors eux, ils vont repasser en revue tout le capitalisme depuis lors. Alors pourquoi c'est important? Ben, tout simplement parce que le capitalisme de surveillance est l'expression d'un contexte. En fait, ils s'inscrivent dans le courant de la critique du capitalisme et montrent en fait la tendance impérialiste et militariste que les révélations Snowden ont démontré, c'est-à-dire l'accointance entre les entreprises du numérique et les forces armées. Et ça, on peut remonter assez loin, on peut remonter jusqu'aux années 60, évidemment, pour voir tous les scandale et les tentatives de ces autorités de surveillance pour surveiller les citoyens à des fins politiques. Mais aussi, évidemment, la mise en place de la société de consommation dans l'optique, justement, hégémonique américaine, de manière à pouvoir infléchir toute la partie marketing en mettant sur place toute une économie de la data et les premières entreprises de courtage de données. Pour revenir à Shoshana Zuboff, elle, par contre, elle entend dénoncer la doctrine qui sous-tend les pratiques des multinationales de l'économie numérique d'aujourd'hui, en montrant que Google, par exemple, c'est pour satisfaire à la logique de l'actionnariat que Google s'est transformé en espèce de pompe à données. Et là, il est passé d'une activité de start-up, celle du moteur de recherche de Google, en une pompe à données au courant des années 2000. Et c'est cela, cette logique de surfinanciarisation de l'économie numérique qui fait que pour Zuboff, on arrive à ce point de surveillance systématique de nos comportements. Et voilà, donc en fait, ce sont deux tendances qui méritent d'être entendues en tout cas, mais pour ma part, en tant qu'historien, je préfère évidemment la première qui nous amène un petit peu à réfléchir sur le capitalisme et ses effets dans la société.
What makes can make a bit afraid is really like this dislocation things. Like, I mean, this weekend where I was in Hamburg, that's really weird. Like to see like I was distorted at that point.
You are clubbing here.
Yeah. Those are things that is really, really personal stuff, you know, where you don't want to share it with someone.
I have kind of a conclusion, of course. Yeah, working on your data for hours, you start to think about, you know, who is that person? What are they doing? And from what I learned about you, what I saw about you, I guess that's kind of the image I arrived at, that you're like an active social person who's definitely not nerdy. There's nothing about politics, for example, in there, so I have no idea if you care about politics, and if you care about politics, like what your views are.
That's crazy. But did you see that I'm a wealthy person on how I interact, or
we can guess from the social graph?
Alors, on vient d'entendre un extrait du documentaire Nothing to Hide de Marc Meyassou et de Mihaela Gladovic, qui a été produit en 2017 et qui est maintenant donc disponible en licence CC by NCND sur l'instance peertube.cpy.re, par exemple. Alors, et là, il s'agit d'un extrait de la scène de restitution finale du documentaire où, en fait, donc c'est un certain Mr. X, un comédien allemand, qui a accepté de partager les métadonnées de son ordinateur et de son smartphone pendant un mois avec une équipe de chercheurs au moyen d'un logiciel espion. En fait, il découvre à la fin du documentaire, tout ce que l'équipe de chercheurs comprend de lui, via le partage de ses métadonnées, tout ce que l'équipe peut comprendre de lui, de ses habitudes, de ses goûts, du type de personne, si on peut le dire comme ça, de ses orientations. Et cette expérience montre donc l'ampleur des données récoltées par les services en ligne qu'il utilise, les applications mobiles, et notamment celles appartenant aux GAFAM, par exemple. Alors là, on a le cas d'un consentement, d'un type de consentement particulier, on pourrait dire, où une personne accepte d'être comme pisté par une équipe de chercheurs au travers d'un logiciel espion, mais en pratique, les données récoltées par les GAFAM sont récoltées aussi sur la base de notre consentement lorsque nous acceptons d'utiliser leurs services. Alors Christophe, est-ce que ce que je viens de dire à propos du consentement est vrai déjà? Est-ce qu'on consent vraiment à transmettre nos données aux GAFAM? Et est-ce que, comme le capitalisme de surveillance qui ne date pas d'hier, comme tu l'expliquais, cette forme de consentement ou des formes de consentement proches ou alternatives existaient aussi bien avant les GAFAM pour participer, on pourrait dire, à ce capitalisme de surveillance?
Alors, la première réponse que je vais avoir tendance à faire, c'est toujours une réponse d'historien. La question du consentement, elle est au cœur des combats pour la vie privée qui ont commencé au tout début, fin des années 60, à savoir que ce sont d'abord les banques qui ont été au centre de l'attention, et en particulier dans ce qui concerne les banques aux États-Unis, les agences d'évaluation de crédit. Et ces agences menaient une sorte de pratique complètement débridée de fichage de la clientèle pour évaluer les crédits, pour savoir si une personne pouvait ou non répondre aux exigences et aux conditions de l'octroi de crédit. C'est ce qui a donné lieu en 1970 au Fair Credit Act, qui est en fait une des premières lois américaines sur la surveillance par l'État des pratiques de ces sociétés de crédit. Et la défense de ces sociétés de crédit, c'était de dire, mais si vous acceptez de lier un contrat avec une société de crédit, si un individu l'accepte, c'est qu'il consent à ce qu'on surveille son comportement et qu'on évalue évidemment sa manière de pouvoir être solvable. Et voilà. Donc en fait, si vous voulez, c'est né tout ça d'un petit ras-le-bol et puis des class actions américaines contre, ces class actions de consommateurs contre les sociétés de crédit. Et puis petit à petit, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que de plus en plus, on s'est focalisé sur la capacité des gouvernements à rassembler des données Et on a un petit peu laissé de côté l'économie de la data au niveau privé, au niveau des entreprises. Résultat, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1974, les États-Unis ont voté le Privacy Act, où on a conceptualisé le concept de vie privée, hein, qui est toujours un concept qui est très flou hein, au niveau des États encore aujourd'hui. Mais c'était surtout sur la base de la défense des citoyens par rapport à ce que pouvait en faire un gouvernement. Quant à l'économie elle-même, elle a continué sur son élan avec des grandes sociétés de courtage de données, notamment Equifax par exemple, ou Axiom qui sont nées. Axiom est né sous le nom de Demographic en 1969. Et toutes ces sociétés-là ont basé leur modèle d'affaires sur l'accaparement des données personnelles et des données comportementales des consommateurs. Et donc, est-ce qu'on consent vraiment à donner nos données? La réponse est, avec le RGPD aujourd'hui, ben, oui, évidemment que nous consentons à ce que les données soient utilisées. Et je dirais même que c'est encore mieux pour les entreprises, puisque si le plus vous consentiez à donner les données sont des données qui, en fait, vont être travaillées avec des règles mathématiques, des courbes de régression, des courbes de corrélation, de manière à ce qu'on puisse vraiment les travailler à fond. Si vous ne consentez pas, c'est pas grave, puisque de toute façon, une entreprise comme Axiom, par exemple, a fusionné dernièrement avec LiveRamp, qui est le leader mondial de l'onboarding, c'est-à-dire le reprofilage. Donc, en fait, on peut très bien vous reprofiler, même si vous n'avez pas consenti à ce que vos données sur tel ou tel plan, à tel ou tel endroit et à telle situation seront divulguées ou pas. Ce n'est pas très important pour ces entreprises-là. L'essentiel, c'est de pouvoir identifier des groupes et voir leur comportement dans le détail.
Merci beaucoup Christophe. Alors tu vois, j'ai une question d'étudiant de Max justement qui recoupe ce que tu disais. Il te demande si le consentement c'est via l'acceptation de paramètres de confidentialité, mais donc tu n'expliques que pas seulement.
Et non, c'est pas seulement ça. C'est pas le consentement à ceci de particulier qui nous fait croire que nous en tant qu'individus, on est maître de la décision de quelles données nous allons pouvoir partager ou pas. Or c'est bien plus que cela. C'est un peu être naïf que de croire ça, puisqu'en fait, les sociétés comme Axiom ont 50 ans de données personnelles sur lesquelles elles peuvent travailler. Et en fonction de cela, elles peuvent élaborer des modèles qui permettent de profiler les gens sans pour autant que les données vraiment personnelles de Monsieur Dupont qui a acheté une tondeuse à gazon et un canard en mousse soient ou pour autant répertoriées. C'est pas très important. L'essentiel, c'est de savoir si tous les Monsieur Dupont et tous les voisins de Monsieur Dupont peuvent acheter un canard en mousse ou pas.
Merci Christophe pour ces réponses. Eh bien, je te propose d'enchaîner avec la seconde partie, donc ce que tu as appelé les surveillance studies, et nous expliquer peut-être justement le lien entre ces recherches et ce qu'on a commencé à raconter ici.
Alors, les surveillance studies, c'est intéressant parce que c'est un mouvement de recherche tout à fait académique aujourd'hui, qui est plutôt ancien et qui est assez méconnu en France. C'est pour ça que je voulais un peu en parler. Alors, on a tous entendu parler des Science and Technology Studies, donc les STS, ou les Cultural Studies, les études culturelles. Ben, les études de surveillance sont sur le même modèle, c'est-à-dire à la fois transdisciplinaire et transnationale. Donc ça relève d'une démarche qui est scientifique, qui a pour objectif d'analyser la surveillance. Et la surveillance vue comme, alors je donne une définition très générale, un processus de structuration sociale, c'est-à-dire voir comment la surveillance structure la société. Alors par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des entreprises, mais aussi la surveillance structure aussi nos comportements, c'est-à-dire qu'en fait, lorsque aux États-Unis ou en France, on met tous une caméra de surveillance devant notre porte d'entrée, eh bien, nous pratiquons nous-mêmes des formes de surveillance. Ou bien, lorsque nous entrons dans le bus, nous découvrons qu'avec plaisir que nous n'avons plus besoin de montrer notre ticket de transport parce qu'il est scanné automatiquement, eh bien, voilà, c'est savoir un petit peu comment est-ce que nous réagissons par rapport à la surveillance en bien ou en mal. Donc les surveillance studies considèrent la surveillance comme l'ensemble des pratiques de collecte d'informations et d'interprétation de ces informations. Alors évidemment, ces pratiques de surveillance relèvent de plus en plus de technologies particulières, elles sont présentes à différents niveaux d'organisation sociale. Mais pour autant, les études de surveillance ne se concentrent pas uniquement là-dessus. Le champ d'investigation concerné peut concerner pas mal de choses, comme par exemple le dernier livre qui a eu un prix là, sur les études de surveillance concerne la surveillance des populations autochtones au Canada, par exemple. Donc on voit que ça peut dépasser largement le simple fait de la surveillance électronique. Donc, en fait, elle considère les champs de la surveillance, enfin, les champs politiques, sociaux, économiques, sous l'angle de la surveillance. Alors, elles peuvent concerner les périodes pré-industrielles aussi. Hein. On peut corréler, par exemple, l'ensemble de la production académique dans les sciences sociales avec l'apparition de ce qu'on appelle la nouvelle économie des années 90, c'est-à-dire l'essor des infrastructures de réseau numérique et l'économie de plateforme. Et on peut aussi analyser la question de la première moitié du XXe siècle ou celle de la deuxième moitié du XXe siècle sous l'angle de la surveillance. Ce n'est pas parce qu'il y a la technologie de surveillance qu'on ne peut pas réfléchir à cette question sous l'angle de la surveillance. Évidemment, après les attentats du 9 septembre et les révélations Snowden en 2014, les études de surveillance se sont concentrées sur la surveillance électronique. On a accru aussi pas mal la production d'articles et de livres sur ces questions-là au niveau social, moral, éthique, politique. Alors qu'il y a plusieurs indicateurs institutionnels qui permettent d'identifier la communauté scientifique des études de surveillance, il y a évidemment le profil académique des membres, qui sont pour l'essentiel issus de la sociologie, mais aussi du droit. Alors pour donner... un exemple, il y a James Rules, par exemple, a commencé à travailler au début des années 70 sur la surveillance et la consommation. Donc ça, c'est aussi toute une filiation des surveillance studies. On note aussi le département de sociologie de la Queen's University de Kingston, qui est en fait spécialisé, notamment dirigé par quelqu'un qui s'appelle David Lyon, qui est l'une des références en la matière. Et puis, les publications sont assez abondantes à partir des années 2000. Et ce n'est pas pour rien, évidemment, puisque c'est là qu'émergent les principales économies de plateforme, celles dont parlait justement Zuboff. Voilà. Et puis, il y a un congrès biannuel du réseau des surveillance studies, le Surveillance Studies Network. Vous pouvez taper ça sur notre ami Google et vous trouverez très facilement le site en question avec une revue dont les articles sont soutenus.
Christophe Fonta perdu. Je propose d'envoyer l'extrait et on te reprend après.
Une de ses premières réussites est une campagne réalisée pour le compte de la Beech Nut Company, célèbre producteur de bacon. Il voulait être le plus gros producteur de bacon des États-Unis. Traditionnellement, une entreprise aurait juste essayé de faire mieux que la concurrence et dit « notre bacon est meilleur que les autres ». Mais Eddie Bernays a dit « non, ce n'est pas comme ça. Il faut agrandir le marché pour tout le monde ». Edward Bernays va s'appuyer sur un concept qui a fait le succès de la commission Krill, les leaders d'opinion. Il choisit d'utiliser le pouvoir d'influence de l'une des professions les plus respectées de l'époque, les médecins.
Il a donc commandé une étude demandant à de nombreux médecins et professionnels respectables dans le domaine de la nutrition et de la santé. Pensez-vous que la notion de petit déjeuner qui tient au corps soit utile ? Doit-on manger copieusement le matin ?
L'étude conclut au bienfait d'un petit déjeuner copieux pour la santé. Edward Bernays transmet ce résultat à 4000 médecins à travers tout le pays. Sans qu'ils le sachent, ils vont relayer auprès de leurs patients un message qui sert une cause strictement commerciale.
If you don't like bacon, and you're interested in your health, as 4,000 doctors say that you better eat bacon, you'll do it.
Mmm, bacon and eggs and buttered toast. There's nothing like a good, healthy breakfast to start the day off right. And a meal like this should satisfy anyone. He'll have to learn that food has a lot to do with the way you look and the way you feel.
En quelques années, le petit déjeuner à l'américaine devient une institution, un repère culturel qui aura la vie longue.
Alors c'était un extrait du documentaire Propaganda, la fabrique du consentement, qui a été diffusé sur Arte en 2017, que j'ai retrouvé sur Dailymotion, j'ai pas retrouvé sur le site d'Arte. Ce documentaire tourne essentiellement autour de la personnalité d'Edouard Bernays, dont on a déjà parlé plusieurs fois, et je traduis juste rapidement le petit moment où il parle en disant effectivement, si vous n'êtes pas intéressé par le bacon, mais que vous êtes intéressé par votre santé, et que 4000 docteurs vous disent que le bacon est bon pour votre santé, eh bien vous allez vous intéresser au bacon. Alors c'est peut-être une simplification, mais néanmoins à travers ce documentaire, je trouve qu'on trouve plein de choses intéressantes. Christophe, je crois que tu es revenu parmi nous.
Oui, bien sûr. Est-ce que vous m'entendez bien ?
Et on t'entend parfaitement. Est-ce que tu voulais, on peut revenir sur la partie sur les surveillances statistiques, tu voulais nous parler, peut-être il y avait une deuxième sous-partie où tu voulais nous parler de lutte pour la protection de la vie privée et le concept de privacy. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus rapidement ou réagir à l'extrait à ta convenance ?
Je vais faire les deux. Je vais réagir à l'extrait. Bernays, c'est le père de ce qu'on appelle aujourd'hui le nudge. C'est-à-dire le petit coup de pouce qui vous permet, à un coup très, très faible de communication, de pouvoir permettre d'augmenter les ventes. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est la théorisation de ce qu'on appelle le paternalisme libéral, c'est-à-dire l'idée que, contrairement à ce qu'on croit, c'est-à-dire qu'en économie, les agents sont des agents rationnels, c'est-à-dire que les consommateurs sont... des consommateurs toujours éclairés qui peuvent choisir prendre la meilleure décision pour acheter quelque chose. Eh bien non, en fait, on part du principe que ce sont des agents irrationnels qui sont bourrés d'a priori et d'idées préconçues et que puisqu'ils sont irrationnels, il faut les guider dans leur choix. Mais ça, c'est ce qui va changer tout au niveau du marketing. Alors quel rapport avec la vie privée ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on récolte une majeure partie des données comportementales des gens et qu'on modélise leur comportement de manière à mieux pouvoir communiquer en matière de marketing et donc de nudge, on peut se poser la question, mais quelles sont nos libertés ? Puisque si on se définit en tant que consommateur, qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment est-ce qu'on peut exercer finalement notre liberté de choix et nos libertés décisionnelles. Donc voilà ce qui va poser problème au niveau de la vie privée. La vie privée, c'est un concept qui est né en 1890 aux États-Unis, mais qui n'a jamais été repris en tant que tel dans différents États. Hein. La vie privée n'entre par exemple dans le droit français qu'à partir de 48, il me semble. Et en Allemagne, la manière de concevoir la vie privée est complètement différente qu'en France. Bon, voilà, c'est un concept qui est très malléable. Mais pour revenir aux États-Unis, il est né d'après une affaire qui s'appelle l'arrêt Warren et Brandeis en 1890. Il est né sous l'idée que la vie privée, c'est le fait d'être laissé tranquille. C'est uniquement ça. Le fait d'être laissé tranquille, et notamment ses rapports à la question journalistique tous les tabloïds de l'époque avaient tendance un petit peu à espionner les stars et les célébrités. Et il ne faut pas confondre donc la vie privée avec la privacy. La privacy, c'est les conditions d'exercice de la vie privée, donc ce qu'on appelle la privacy. Donc ça, c'est un concept qui va évoluer tout au long de l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle. Eh bien, ce sont justement ces conditions qui nous permettent de dire, voilà, à un moment donné, les entreprises de courtage de données ou les gouvernements exagèrent au niveau de l'emprise qu'ils ont sur nos données personnelles et il faut limiter cela. Et donc, la privacy, ce sont les conditions limitatives qui nous permettent d'exercer notre vie privée. Alors, dedans, il y a de tout. Hein. Il y a le fait de se laisser tranquille, évidemment, mais il y a aussi le secret des correspondances, la liberté de choix, la liberté d'expression, enfin tous ces ensembles de prérogatives et de libertés qui nous définissent en tant qu'individus et que l'on souhaiterait pouvoir évidemment sauvegarder le plus possible. Donc voilà, c'est à cela dont je faisais référence tout à l'heure.
Merci Christophe. Alors, donc tu nous parles justement des surveillance studies. Alors peut-être plus aux États-Unis, est-ce que alors en France on a une définition de la vie privée qui est peut-être donc différente que celle qui est aux États-Unis. Est-ce que par rapport aux surveillance studies, donc, et puis à la façon de penser la surveillance, qu'elle soit à la surveillance du sujet ou la surveillance des collectifs, est-ce qu'il y a une différence dans l'histoire entre justement la naissance et le développement du capitalisme de surveillance et de la surveillance elle-même en Europe, en France et puis aux États-Unis.
Alors oui, il y a une différence. J'ai dit tout à l'heure que la surveillance studies était un mouvement transnational. C'est tout simplement parce que justement la question des combats pour la vie privée ont pris une dimension justement transnationale et ont accompagné à la fois les technologies de surveillance et les politiques de surveillance. Alors je m'explique. Les politiques de surveillance telles qu'elles étaient connues à la fin de la guerre froide ont donné lieu à l'arrivée sur le marché à la fois des autorités gouvernementales et du marché évidemment plus général de technologies de surveillance. On parlait tout à l'heure des caméras de surveillance, tout ça, la miniaturisation, etc. Tout ça, ça arrive sur le marché. Et donc le concept de vie privée a commencé à arriver dans le droit, d'abord britannique, mais aussi notamment en Allemagne et puis en France, à travers différents éléments qui sont de l'ordre du scandale. Alors, pour prendre l'exemple de la France, on a en 1974, donc ça c'est finalement assez peu de temps après le Privacy Act aux États-Unis, en 1974 éclate l'affaire Safari. Alors, l'affaire Safari, c'est une affaire qui éclate en 1974 dans les colonnes du journal Le Monde, et donc qui dénonce la volonté du ministère de l'Intérieur de vouloir fusionner les renseignements des Français, notamment fusionnant l'identité, la sécurité sociale, les fiches d'impôts, etc., de manière à dresser un gigantesque fichier qui permettrait donc d'avoir à disposition tout un ensemble de données sur tous les Français. Tout simplement, entre 1974 et 1978, les travaux du Conseil d'État donnent lieu à différentes orientations, et en 1978, naît la CNIL, qui est dotée au départ évidemment de faibles moyens, mais au moins on a acté dans le droit français différents éléments qui consistent à que ce soit officialisé le fait que la vie privée des citoyens doit être protégée, en particulier face aux tendances de certaines politiques à vouloir un petit peu trop en faire. Sur la question de la surveillance, par contre, dans l'économie, dans nos comportements, tout ça, c'est un petit peu laissé de côté, en quelque sorte. On a, pour rester sur la France, par exemple, le CPLM qui est vous connaissez la société de crédit, qui s'équipe dès la fin des années 50, de gros ordinateurs IBM, et qui n'a de cesse de se moderniser depuis lors, et qui monte un observatoire de la consommation en France avec tout un ensemble de données comportementales qui lui permettent un petit peu de surveiller les comportements de choix des Français. Donc ça, c'est voilà. Donc il y a plusieurs tendances, et aujourd'hui, à quoi on assiste, c'est ce que dénonce Zuboff. On assiste à ce croisement entre justement l'économie de la donnée dans le champ purement économique consommation et le croisement de l'économie de la donnée dans les prérogatives des autorités gouvernementales par évidemment l'affaire Snowden qui montre que justement ce croisement, il y a toujours une connivence entre les entreprises et l'État, mais aussi si les États se mettent à surveiller les gens, c'est bien parce que derrière il y a un marché de la data. Parce que l'État ne surveille pas tout seul, il surveille avec des technologies et des techniques qui sont vendues et qui sont achetées en connaissance de cause. Voilà.
Merci Christophe, je crois que tu t'es préparé ta propre transition puisque la troisième partie est consacrée à l'histoire du courtage des données et je crois que tu viens nous en donner les premiers éléments. Je te laisse poursuivre si tu as repris ton souffle.
Alors le courtage de données, ce que je voulais faire, c'est surtout vous raconter la petite histoire d'Axiom. J'en ai fait référence tout à l'heure. Axiom, donc, pour donner une idée, c'est quoi Axiom aujourd'hui? Attendez, je prends mes notes. Hop. Axiom. Il y a trois comment dire, il y a trois orientations de cette entreprise aujourd'hui, hein, qui regroupe un peu plus de 2000 employés. Elle a son siège social à Conway, dans l'Arkansas, mais il existe une filiale Axiom France, hein, bien sûr. Donc, le modèle économique d'Axiom, c'est d'abord la donnée consommateur. Donc, elle propose des sources d'informations sur les consommateurs, et c'est sans doute la plus riche du marché à l'heure actuelle. Peut-être qu'elle va être dépassée, bien sûr. Enfin bon, elle vient de racheter l'Island, et je ne me fais pas trop de soucis sur les cotations en bourse d'Axiom. Pour vous donner une idée, Axiom France se vante d'avoir 22 millions de foyers qualifiés sur une grande variété de critères, ce qu'on appelle les critères sociodémographiques et comportementaux. 22 millions de foyers. Hein. Alors, pour info, en 2016, en France, on recense 29 millions de ménages. Donc, ça donne une idée un petit peu de ce pourquoi Axiom se vante. Hein. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je ne suis pas à même de juger, mais enfin bon, on est sur une vision très exhaustive des données comportementales des Français. Et je ne parle que de la France, évidemment. Axiom a récemment loué les services d'Amazon Web Exchange, justement pour que des sociétés puissent utiliser ces services et ces data grâce aux services d'Amazon à travers le monde entier. Depuis 50 ans, donc, ce que Axiom vante aussi, c'est la fiabilité de l'information qu'elle produit. C'est-à-dire, là, c'est des aspects techniques. Hein, il y a des duplications, des données en temps réel, un système d'automatisation d'accès à la demande, etc. Et puis, évidemment, elle se pose en tant que de conseil en marketing stratégique, sans doute le meilleur de l'offre actuelle. Alors, Axiom fait quoi? Eh bien, en fait, ça a commencé en 69 dans une entreprise qui s'appelle la Ward Body Works. La Ward Body Works, c'est une entreprise de fabrication de bus, et en particulier de bus scolaires. Vous savez, tous les bus jaunes qu'on voit dans les séries télévisées, voilà, là, c'est eux qui les fabriquaient depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à peu près. Et Charles Ward est quelqu'un qui est très impliqué dans la vie politique, notamment le Parti démocrate de l'Arkansas. Et puis, son entreprise, la Ward, donc, dispose depuis le début des années 60 des gros ordinateurs. Alors, au début, c'est une tabulatrice IBM 704, et puis après, il a acheté en 67-68 un gros IBM System 360. C'est vraiment les gros ordinateurs, c'est vraiment le top du top à l'époque. Alors, pourquoi ils ont utilisé ces ordinateurs-là? C'est parce qu'il fallait qu'ils modélisent les structures des bus, puis en même temps qu'ils fassent un gros travail documentaire, puisque l'entreprise vend ses bus à travers différents États, mais aussi différents pays dans le monde. Et donc, il fallait avoir un assortiment documentaire sur les législations en vigueur pour que les bus puissent coller aux exigences. Et puis, comme il est investi dans le comité local de l'Arkansas du Parti démocrate, il s'est dit, les élections de l'Arkansas arrivent et nous avons actuellement à la tête de l'Arkansas quelqu'un qui s'appelle Winthrop Rockefeller, qui est en fait un membre élu du Parti républicain. Et c'est la première fois que ça arrivait dans l'Arkansas. Alors, il fallait absolument que les démocrates se mettent en branle pour pouvoir déloger ce républicain. Et dans l'élection de Dale Bunter, qui est en fait le successeur, qui est démocrate, eh bien, ils vont mettre en... Ward va mettre à disposition du Parti démocrate sa grosse machine. Et sa grosse machine, elle consiste à quoi? À faire le profilage des électeurs de tout l'Arkansas, et en particulier pour favoriser le public postage et cibler au mieux les personnes. Alors, comment il fait ça? Il récolte tout un ensemble de data qui sont disponibles en accès libre sur sur l'historique des élections de l'Arkansas, et aussi analyse ce qu'on appelle la congruence idéologique, c'est-à-dire la manière avec les sondages, la manière qu'on a de voir comment est-ce qu'un discours politique rentre bien dans les esprits des gens, et voir chez qui... il fait mouche, et chez qui il ne fait pas mouche. Et chez qui il fait mouche, eh bien, on va pouvoir mobiliser ainsi les bénévoles du Parti démocrate pour aller démarcher des gens. Alors, pour ça, il va se dire, c'est bien, mais le modèle économique, il peut être intéressant. Alors, il va aller chez IBM, Et puis il va déloger un petit peu, faire venir les super ingénieurs de chez IBM, dont un en particulier qui est aujourd'hui le PDG d'Axiom, qui s'appelle Charles Morgan. Charles Morgan, c'est un grand ingénieur, vraiment quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules. Et lui, il va créer l'entreprise, il va être à la tête de l'entreprise Demographics, ça s'appelle comme ça, et va démarcher l'équivalent des pages jaunes aux États-Unis, et va créer un modèle, qu'on appelle le modèle business to business, pour essayer de voir comment est-ce que on peut automatiser le démarchage et automatiser au niveau de tous les États-Unis. C'est-à-dire qu'il va créer, il va utiliser le gros ordinateur de la Ward, et il va permettre à différentes entreprises de pouvoir se connecter et de pouvoir dresser des listes à la demande. Alors voilà, c'est comme ça que c'est né un petit peu Demographics. Et puis ce qu'il faut comprendre, c'est que en même temps se développe toutes les études, notamment les travaux de code sur les bases de données relationnelles. Et on va passer ainsi, grâce à tout le travail qui va être développé chez Demographics et qui va s'appeler Axiom dès les années 85, on va s'appelle le stockage de données, puisqu'il fallait bien beaucoup de stockage de données, à l'entrepôt de données. Et ça, ce qui est intéressant là-dessus, et je terminerai là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ce n'est pas seulement une question d'innovation technologique, mais en fait, ils vont acheter beaucoup d'ordinateurs d'occasion, ils vont acheter pas mal de supports de stockage d'occasion. Ce n'est pas vraiment un problème technologique, c'est un problème de savoir-faire. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se connecter à distance avec une téléphonique pour automatiser, justement, pour que chaque entreprise puisse faire des demandes avec un langage de haut niveau qui va être développé pour ça, faire des demandes pour obtenir des listes de clientèle et bien ciblées avec notamment une segmentation géodémographique de la population. Donc voilà comment c'est né le courtage de données. Donc c'est né d'une espèce de confusion entre les besoins, ce qu'on appelle les entreprises électorales et les entreprises de courtage de données qu'on connaît aujourd'hui. Et ça n'a pas quitté, puisque si on regarde un petit peu l'affaire Cambridge Analytica, on est exactement dans cette confusion qui date à l'IA.
Alors qu'est-ce que c'est une unité de nudge? C'est, ça vient effectivement de l'anglo-saxon, du monde anglo-saxon. Ça vient en fait de l'économie comportementale. Alors qu'est-ce que c'est l'économie comportementale? C'est un nouveau type d'économie libérale qui critique l'économie néoclassique. Tous les membres de l'espèce humaine, agrégés en collectif ou en individu, sont irrationnels pour ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça rejoint les neurosciences, ce qui est dans notre cerveau, c'est un ensemble d'équipements et de biais inadaptés liés à une époque en fait préhistorique complètement dépassée. Ça vous parle?
Oui, tout à fait.
Et donc, du même coup, il faut complètement revoir notre économie libérale, et il faut renoncer à l'idée d'une rationalité des sujets. En fait, ils sont mal foutus, handicapés, cognitivement, ils ne fonctionnent pas du tout. Donc, il faut que l'économie libérale devienne une économie comportementale, c'est-à-dire qu'elle façonne les comportements des individus dans la bonne direction.
On vient d'entendre la voix de Barbara Stiegler qui échangeait avec François Ruffin pendant une conférence, un échange que vous retrouverez avec le titre « Covid, Macron et allergie à la démocratie 2021 » sur YouTube. Alors, donc Barbara Stiegler nous parle donc du nudge. Christophe, tu en parlais un petit peu plus tôt. Alors, est-ce qu'il est possible finalement d'échapper à l'influence d'un nudge? Et puis, collectivement, après, qu'est-ce qui est le plus viable? Est-ce que la priorité, c'est d'essayer de les faire disparaître ou plutôt d'apprendre à ne plus se faire avoir, si c'est possible?
Apprendre à plus se faire avoir, toujours surveiller ce qu'on fait, nos choix, etc. C'est juste à devenir schizophrène au bout d'un compte. C'est fatigant en plus, c'est très fatigant. Les nudges, c'est une technique que vous voyez tous les jours. C'est le prix barré sur Amazon qui vous aide à déterminer votre choix lorsque vous voulez acheter un produit et vous croyez qu'il est moins cher, mais en fait non, on a juste écrit des chiffres et on a fait une croix dessus, c'est pas pareil, hein. Ou alors lorsque vous avez un gros sac de rouleaux de papier toilette au supermarché, puis qu'on vous dit attention, seulement 12 exemplaires par personne, et là vous allez en acheter 15, vous allez en acheter beaucoup plus que ce que vous vouliez acheter. Enfin, tout ça s'évalue. le marketing, la rentabilité d'une entreprise aujourd'hui se mesure à l'aune de sa démarche marketing, de l'efficacité de son marketing. Donc tout fonctionne comme ça. Alors faire attention, oui, mais enfin bon, faire attention à quoi finalement? On est toujours victime, plus ou moins consentant justement de ce nudge, hein, faut pas croire. Par contre, là où ça se pose, ça pose problème, et c'est ce que dit Barbara Stiegler, c'est à partir du moment où les États, notamment les gouvernements, se dotent de nudge in it. Le premier à avoir officialisé la chose, c'est Barack Obama, hein, Macron a une nudge in it. C'est le PDG de BVA qui a sorti, par exemple, les concepts de première, deuxième et troisième ligne lorsqu'on a parlé de la crise Covid. Ces gens qui allaient en première ligne, en deuxième ligne, les infirmiers, les éboueurs, etc. Tout ça pourquoi? Non pas pour manipuler, mais c'est juste pour qu'on puisse s'identifier à quelque chose dont on est fier et qu'il y ait le moins de remous possible quant à l'obligation d'aller travailler quand même en pleine crise sanitaire. Alors, est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est au contraire une manière astucieuse de faire passer des messages? C'est là qu'il faut réfléchir. C'est surtout là qu'il faut réfléchir.
Et du coup, Christophe, je me demande si, avec cette dernière phrase, tu ne poserais pas la question du contrôle en tant que tel.
Oh, mais insidieusement, à peine. Je voulais revenir sur la confusion qu'il y a entre contrôle et surveillance. Le contrôle, on contrôle toujours pour une norme. Alors, dans une entreprise, par exemple, on va contrôler la production pour voir quoi ? Pour voir si la production correspond à aux normes qu'on attend, ce qu'on a attendu. Évidemment, quand on contrôle la population, c'est pour qu'elle corresponde, c'est que les comportements correspondent à des normes sociales. Pareil dans les nudges, hein, on fait appel à l'idée de normes sociales. Quand on vous dit que tous les gens qui ont acheté une tondeuse à gazon ont aussi acheté un canard en mousse, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup plus enclin à acheter un canard en mousse que si vous pensez être le seul à pouvoir le faire. Bon. Évidemment, cette histoire du tondeuse à gazon et de canard en mousse, on peut trouver des vrais exemples bien plus parlants. La surveillance, par contre, c'est différent. On surveille pour influencer. Hein? La différence, elle nous est donnée par Gilles Deleuze, et je fais juste ce petit commentaire à propos de, justement, Foucault et Deleuze. Charles Foucault nous parlait, évidemment, de la société de contrôle. Dans Surveiller et punir, il utilise le modèle du panoptique de Jeremy Bentham pour montrer quoi ? Pour montrer, avec l'exemple de la prison, que lorsqu'on met en place une société de l'enfermement, on n'est plus à même de la contrôler. Alors, dans une prison, on contrôle, mais on n'a pas besoin d'agir forcément physiquement sur les gens pour qu'ils puissent se contrôler eux-mêmes. L'idée, c'est quoi ? L'idée de Bentham, c'était quoi ? L'idée, c'était de dire, quand il y avait des guerres civiles, c'était de dire que une société de l'enfermement, une société que l'on peut, qui peut se contrôler elle-même, se surveiller elle-même par le biais de dispositifs, pas seulement le panoptique dans la prison, eh bien, c'est une société qui est mature. Alors, les lieux d'enfermement sont la prison, évidemment, mais aussi l'école, par exemple, ou la clinique. Ce sont des lieux où on peut surveiller les gens. Et une société mature se mesure par le fait qu'elle est capable d'appliquer des normes sociales à tous les niveaux des organisations. Donc Foucault critique justement les institutions à ce titre-là et voit comment justement la question du contrôle se pose à l'époque où il écrit. Deleuze nous parle au contraire, nous revient sur Foucault et dit voilà, mais on est passé finalement, notamment avec les techniques, à une société justement de l'ouverture, non plus de l'enfermement. C'est-à-dire qu'à la différence de l'ancien temps, dans quelle époque, dans quelle ère, si on veut, on n'a plus besoin d'avoir vraiment des lieux d'enfermement bien identifiés. Il y en aura toujours, évidemment, mais on n'a plus besoin d'avoir ça tout partout. On a surtout besoin d'avoir de la surveillance partout. Et les techniques, évidemment, nous aident à cela. Les caméras de surveillance, les drones, etc., tout cela relève de stratégies de surveillance qui nous permettent justement d'institutionnaliser la surveillance à tous les niveaux de l'organisation sociale, mais aussi à tous les niveaux géographiques, bien sûr. Donc voilà où on en est. Et dire que la surveillance et le contrôle, ben non, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que la surveillance est quelque chose de beaucoup plus insidieux, où on va se contenter d'influencer pour obtenir un résultat. C'est comme ça que finalement l'économie, par exemple, modélise nos comportements et non pas nous oblige à prendre des décisions, mais nous conforme à un modèle économique qui nous est en quelque sorte imposé, mais imposé, et qui nous conforme dans nos comportements. Stéphane me fait aimablement remarquer que j'ai dit Charles Foucault. Désolé, c'est mon passé catholique qui revient. Je parle bien de Michel Foucault. voilà. Voilà. Donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on s'en débarrasse de ce modèle-là. Eh bien, je vais rester dans la philosophie. Je ramène toujours à l'époque même de Foucault et de Deleuze. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Michel de Certeau, qu'on connaît un peu moins. On connaît plus, parce que justement, je parlais de catholicisme. Il a fait beaucoup de travaux en théologie, mais Michel de Certeau est un philosophe qui est très intéressant, dans le sens où, lui, il va nous dire que c'est bien gentil de nous parler de contrôle, de surveillance, mais ça veut dire qu'on est éternellement, dans ce cas, des sujets qui sont soumis à des impératifs comme ça qu'on nous impose par le haut. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, de fait, ce n'est pas le cas, puisque nous avons tous des savoir-être, des savoir-faire qui échappent à ces choses-là. Alors, ces savoir-faire et ces savoir-être, on les constate partout. Par exemple, dans une entreprise, lorsqu'on a des process de production bien déterminés, eh bien, il y aura toujours des ouvriers de l'entreprise, par exemple, qui vont contourner ces process parce que, à tel ou tel moment de la production, ça leur paraît beaucoup plus évident ou beaucoup plus facile de travailler d'une manière qui leur est propre et pas de la manière dont qui leur est imposée. De la même manière, par rapport aux institutions de la surveillance dans la société, nous contournons tous plus ou moins la loi, et d'ailleurs elle est faite pour être contournée, n'est-ce pas, pour mieux vivre, tout simplement. Et c'est ce que nous dit Michel de Certeau. Et à travers ça, eh bien, tout simplement, je vois, en tout cas dans mon militantisme et dans Framasoft, dans le modèle du logiciel libre et des services libres que nous promouvons, justement, ces savoir-être et ces savoir-faire qui nous permettent justement de nous émanciper par rapport à cette surveillance généralisée. Et c'est ce que disait, pour rester dans la famille, c'est ce que disait Bernard Stiegler. Il faut déprolétariser les gens par rapport à cette économie qui nous est imposée, cette économie de la surveillance, en mettant en place une société de la contribution, c'est une société qui nous permet à nous tous eh bien, de ne plus être des sujets éternellement soumis, mais au contraire, renouer avec nos savoir-être et savoir-faire qui nous sont propres et qui nous permettent de nous identifier en tant qu'êtres autonomes et émancipés.
C'est vrai que nous entrons dans une société qu'on peut appeler une société de contrôle. Vous savez, un penseur comme Michel Foucault avait analysé deux types de sociétés assez rapprochées de nous. Les unes qu'il appelait des sociétés de souveraineté, et puis les autres qu'il appelait des sociétés disciplinaires. Et ce qu'il appelait les sociétés disciplinaires, qu'il faisait partir nettement, parce qu'il y a toutes les transitions que vous voulez, avec Napoléon, qui était le passage typique d'une société de souveraineté à une société disciplinaire, la société disciplinaire, elle se définissait, c'est célèbre, les analyses de Foucault sont restées à juste titre célèbres, elle se définissait par la constitution de milieux d'enfermement. Prison, école, atelier, hôpital. Et les sociétés disciplinaires avaient besoin de ça. Ça a un peu engendré des ambiguïtés chez certains lecteurs de Foucault, parce qu'on a cru que c'était la dernière pensée de Foucault. Évidemment, non. Foucault n'a jamais cru, et même il a dit très clairement, que ces sociétés disciplinaires, elles n'étaient pas éternelles. Et bien plus, il pensait évidemment que nous entrions, nous, dans un type de société nouveau. Bien sûr, il y a toutes sortes de restes de sociétés disciplinaires, et pour des années et des années, mais nous savons déjà que nous sommes dans des sociétés d'un autre type, qui sont, et qu'il faudrait appeler ces Burroughs qui prononçaient le mot, et Foucault avait une très vive admiration pour Burroughs. Burroughs proposait le nom de, un nom très simple, de contrôle. Nous entrons dans des sociétés de contrôle.
Alors, vous avez peut-être reconnu la voix très caractéristique de Gilles Deleuze donc pendant cette conférence qui est intitulée « Qu'est-ce que l'acte de création ?». C'est lors d'une conférence à la FEMIS à Paris en 1987. Et donc, vous pourrez désormais retrouver cette vidéo sur l'instance apéri.tube. Donc, Gilles Deleuze nous explique que l'on est passé d'une société de souveraineté à une société disciplinaire, puis d'une société disciplinaire à une société de contrôle qui n'est plus caractérisée par les lieux d'enfermement, mais plutôt par l'ouverture, là, ça c'est, tu nous le disais Christophe, et puis aussi par un contrôle continu, une communication instantanée. Mais comme tu nous l'expliques Christophe, l'enjeu pour viser une transition maintenant de la société de contrôle à une société de contribution, ce n'est pas de se focaliser sur la technologie, l'outil, mais plutôt sur les savoir-faire, les savoir-être. Alors pour éviter toute forme de solutionnisme technologique, j'emploie le terme, est-ce que la solution pour essayer justement de sortir de ce capitalisme de surveillance et atteindre une société de contribution, ce serait d'essayer de trouver de nouvelles formes d'organisation, d'institution ou non, je ne sais pas si le terme convient ou est à éviter. Est-ce que tout cela est au niveau des organisations sociales ?
Ben oui, clairement, c'est ce que je voulais dire en parlant de Michel de Certeau tout à l'heure. Tous ces savoir-être et savoir-faire dont je parlais et qui sont en fait compris dans l'idée de déprolétarisation qui est chère à Bernard Stiegler, eh bien moi je la vois dans les collectifs. Des collectifs qui vont être... J'utilise un concept qui est celui de Bernard Graeber et de Marianne Meckelberg, qui est celui de préfiguration. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que la solution n'est pas forcément uniquement technique, parce qu'il faut faire attention à ne pas opposer justement à un problème social du solutionnisme technologique qui passerait, par exemple, par le logiciel libre. Mais pour moi, c'est simplement une brique supplémentaire, une brique sur laquelle peut évidemment... sur le plan de la communication, tout du moins, s'appuyer le collectif, mais des collectifs qui soient assez indépendants des institutions du capitalisme d'une part, et indépendants par rapport aux institutions publiques d'autre part. Je dis indépendants, je ne dis pas opposés, bien sûr, mais en même temps, ces collectifs qui sont très figuratifs ont ceci de particulier qu'ils créent les conditions de leur liberté, de leur délibération, entre parenthèses, les conditions démocratiques de leur existence, en même temps qu'ils se font. C'est-à-dire qu'on est en train de les réfléchir en même temps qu'on est en train de construire une société de la contribution qui repose sur la délibération et le débat démocratique qui est mis en demeure, littéralement, par la société de surveillance que nous avons aujourd'hui. Alors, tous ces collectifs-là, on les connaît. Je veux dire, le terrain d'étude, par exemple, de David Graeber, c'était Occupy Wall Street. Mais sans pour autant aller dans des collectifs comme ça, qui sont plutôt sur le mode de la confrontation, on peut imaginer toutes sortes de collectifs qui visent à réinventer, se réapproprier, en tout cas, d'une part, les technologies de l'information et de la communication, mais aussi, d'autre part, les lieux de l'espace public, qui sont en fait sous surveillance, c'est-à-dire que puisqu'ils sont sous surveillance, nous en sommes privés, en quelque sorte, sommes privés de notre expérience quotidienne par rapport à ces lieux publics et là où nous évoluons. Voilà, et c'est en cela que je vois l'idée d'une conscience qui puisse être différente et qui s'appuie sur les technologies sans pour autant faire des technologies la solution à tout.
Merci Christophe pour je vais proposer une dernière réflexion à laquelle je t'invite à réagir si tu le souhaites et à ne pas réagir si tu ne le souhaites pas. Faire un petit peu la transition avec le sujet de la semaine prochaine qui sera le dernier cours émission. Donc on va parler de l'autechnicisation du web ou disons plus généralement d'articulation entre la question environnementale et la question numérique. Et pour ça j'ai envie de revenir un petit peu sur le moment où tu as comparé la question du contrôle par l'État d'une part et donc en vue de gérer en douceur, on va dire, la population, je reprends peu ou prou tes termes, que tu as comparé, sinon opposé, à la question du marketing dont l'objectif est de créer de la consommation. Et j'ai l'impression que dans ton propos, et je pense que ça rejoint la vision de la majorité d'entre nous, eh bien, en fait, il est plus grave en quelque sorte que l'État nous contrôle. Enfin, il est problématique que l'État nous contrôle. Il l'est moins que le marketing le fasse, parce qu'en quelque sorte, eh bien, c'est le jeu, comme on dit. J'ai l'impression, on pourrait peut-être aujourd'hui se poser la question dans l'autre sens, c'est-à-dire se demander si finalement une sorte de soft contrôle par l'État qui irait dans le bon sens ne serait peut-être pas si négatif, alors que, au contraire, le marketing dont l'objectif est de créer de la consommation de ressources inutiles et bien pourrait être considéré comme bien plus problématique. Donc je me demande, je ne sais pas si mon propos est ultra clair, mais je me demande s'il n'y a pas un retournement à opérer. Alors effectivement, il y a peut-être, comme le disait Audrey ou comme le suggérait Audrey à un moment, l'idée qu'il n'y ait plus du tout de contrôle et qu'on soit totalement libre, comme tu as répondu, c'est en tout cas c'est un problème beaucoup plus compliqué que cela, qu'on ne peut pas ramener à quelque chose de binaire. Mais en tout cas, je me demande s'il n'y a pas un renversement à réfléchir entre la résistance un peu naturelle qu'on a au contrôle par l'État versus l'acceptation, on va dire, du contrôle marketing, parce que ça fait partie du jeu. Et je me demande s'il n'y a pas un renversement à faire de ce côté-là. Si tu veux réagir, tu peux.
Oui, enfin, sauf que qu'est-ce qu'a montré l'affaire Snowden, il n'y a pas d'affaire Snowden, les révélations Snowden, c'est justement qu'il y a fusion entre la valorisation des données par des entreprises et la valorisation des données par l'État. C'est-à-dire que tout cela, et là je rejoins complètement l'analyse, non pas de Zuboff, mais celle de Foster et McChinney, tout cela se résume à la question de savoir si un État doit mener non pas une politique économique, mais une économie politique qui soit en faveur d'une valorisation des data et asseoir de cette manière-là son caractère hégémonique. La raison pour laquelle les États-Unis espionnent par le truchement des GAFAM, c'est pour faire de la valorisation marchande derrière, c'est pour asseoir l'hégémonie économique en premier. L'hégémonie militaire des États-Unis n'a aussi pour autre but que d'asseoir leur hégémonie économique. Donc voilà. Alors là, je parle des États-Unis, mais du point de vue de la France aussi, c'est pareil. À partir du moment où vous avez un gouvernement qui n'a pour autre objectif que de favoriser la rentabilité de ses propres entreprises au prix de la surveillance des citoyens, eh bien là aussi, on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas finalement plus grave que les entreprises, notamment comme Axiom, modélisent à ce point nos comportements. Et par ailleurs, petit rappel, s'il y a de la surveillance d'État, c'est que derrière, il y a un marché de la surveillance d'État. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des entreprises. Hein. On peut citer par exemple Palantir, dont le principal objectif est de vendre des technologies et tout un savoir-faire de surveillance à différents États, y compris lorsqu'il s'agit d'aller surveiller, pour un État en tout cas, d'aller surveiller un autre, d'autres citoyens, d'autres pays.
Merci beaucoup Christophe. Eh bien, on reparlera peut-être un petit peu de cet aspect la semaine prochaine.
Oui, merci beaucoup Christophe, parce qu'en effet, la semaine prochaine, on parlera donc de l'eutechnicisation du web avec la participation d'Alexandre Monin, qui est philosophe de l'Anthropocène et qui vient de copublier l'ouvrage « Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement » aux éditions Divergence. Donc merci beaucoup Christophe pour le cours pour aujourd'hui. Et donc pour réécouter ce cours, vous pouvez aller sur graphite.net et sur également l'instant Spiretube aperi.tube sur la chaîne Upload. Vous retrouverez sur librecours.net pour le cours d'aujourd'hui des liens vers quelques ressources pour approfondir, et notamment le livre de Christophe, donc Affaires privées aux sources du capitalisme de surveillance, qui est aux éditions CEF Éditions. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur team.picassoft.net dans l'équipe WE1. Et on vous souhaite une très bonne après-midi.
Au revoir Christophe.
Au revoir.
Upload UTC, Stéphane Crozat, Audrey Guélou.